C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons maintenant dans notre studio le photographe Willy Ronis, qui publie non pas deux livres, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, mais bien trois, puisque en plus de Ce jour-là, au Mercure de France et Paris Couleur, aux éditions Le Temps qu'il fait, un troisième livre, alors que nous n'avons pas encore vu, Natacha Wolinski et moi, qui s'appelle La montagne de Willy Ronis, publié aux éditions Terre Bleue. Mais c'est avec quelques mesures de Claude Debussy que nous avons voulu vous accueillir, Willy Ronis. Alors, une œuvre spécifiquement choisie par Laurence Millet, puisque c'est Iberia, image pour orchestre. Et si on écoute Claude Debussy, Willy Ronis, c'est parce que la musique, avant la photographie, avant la peinture même, a été pour vous le premier amour, la première très forte émotion. Vous avez souvenir d'avoir assisté à un concert. Petit garçon, vous aviez 8 ans. Ce fut un choc.
À peu près 8 ans. Et ça a été un choc si violent que je me suis quasiment trouvé mal et que ma mère, avant la fin du concert, a dû me ramener chez moi et m'a couché avec de la fièvre. Et alors elle était très inquiète parce qu'elle se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fait pas très particulièrement froid. Pourquoi est-ce qu'il a de la fièvre ?» Et elle m'a demandé, anxieuse, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Où est-ce que tu as mal ?» J'ai dit, j'ai pas mal, mais c'est la musique. Et alors là, elle a compris. Ma femme était, ma mère était très mélomane, elle était professeure de piano. C'est que jusque-là, elle m'avait emmené écouter de la musique classique, le 19e siècle principalement, c'est-à-dire Mozart, Schubert, Chopin, Beethoven, Tchaïkovski. Mais ce jour-là, c'était Debussy, et pas le Debussy le plus facile, c'était pas au fil de l'eau, c'était jeu de Ravel. Non, c'était jeu de Debussy, c'était bien jeu de Debussy. Et jeu de Debussy est un poème symphonique difficile. Et moi, ça m'avait complètement stabilisé, parce que c'était une atmosphère musicale qui était pour moi totalement inconnue, et elle m'a profondément ébranlé. Et voilà la raison. Ce n'est pas un souvenir que je me remémore, c'est ma mère qui me l'a raconté beaucoup plus tard, parce que moi je n'avais pas gardé le souvenir de ça, j'étais trop petit.
Alors, si votre mère était professeure de piano, ce n'est pas le piano qu'elle vous a envoyé étudier, Willy Ronis, c'est le violon. Alors, c'était déjà une première déception pour vous, parce que c'est le piano qui vous intéressait. Le violon, l'envie de composer, vous l'avez souvent raconté.
L'envie de composer, je l'ai eue, oui, je l'ai eue assez vite. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'aurais préféré qu'elle me fît apprendre le piano, parce que le piano, on met ses accords en plus de la ligne principale. Et ça, bien sûr, avec le violon, ça me manquait. En plus de ça, le violon, c'est un instrument difficile et très ingrat. Je n'avais pas un tempérament à me voir concertiste, violoniste. Ce qui fait que j'ai fait du violon sans déplaisir, mais ça n'était pas vraiment ce que j'aurais souhaité.
Pardon.
En tout cas, le goût pour la musique, il était profondément ancré en moi. J'ai fait du solfège de manière assez poussée. D'ailleurs, j'étais né avec l'oreille absolue, ce qui n'est pas tellement courant. Et je pouvais, écoutant quelque chose, sur une portée, transcrire les notes que j'avais entendues sans me tromper. Et ça me faisait plaisir parce que j'allais très souvent au concert symphonique et là, j'écoutais des musiques qui pour moi étaient nouvelles. Et les phrases principales, j'étais capable de les transcrire pour les mémoriser.
Vous auriez pu aussi, Willy Ronis, être peintre. Vous avez beaucoup dessiné, beaucoup fréquenté le musée du Louvre.
Oui.
Vous avez passé de longues heures à recopier, à dessiner les portraits
j'ai
que vous y voyez.
J'ai dessiné de la sculpture et j'ai copié des dessins aussi. J'ai encore chez moi une main à la Sanguine de Holbein, la main d'Erasme, dessinée par Holbein, j'en ai fait la copie, et puis d'autres dessins, et puis beaucoup de dessins que je n'ai pas conservés. Mais la plus forte impression que j'ai eue au Louvre, et alors là, chaque fois que j'allais au Louvre, c'est là que j'allais principalement, c'était les petits cabinets où se trouvent les œuvres des Flamands du XVIIe, le siècle d'or. Et là, je trouvais vraiment une peinture avec laquelle je me sentais totalement en phase. Des scènes familières de la vie de tous les jours, des intérieurs, des tavernes, des scènes de kermesse, Bruegel avant tout. Bruegel, ça a été mon dieu, ça l'est resté d'ailleurs. Et puis les patinages, les scènes de patinage sur les canaux gelés, tout ça, c'était, pour moi, c'était un bonheur. Et je crois que c'est là, principalement, que j'ai appris la distribution des personnages dans l'espace.
Cette école flamande, elle a beaucoup importé aussi pour votre femme, Marianne, qui était peintre elle-même et avec qui vous avez fait ces voyages sur cette terre de ces peintres flamands. Vous êtes allé en Hollande, vous êtes allé sur ces traces-là.
Oui, nous sommes allés en Hollande plusieurs fois. Et elle faisant des gouaches, moi partant avec mon appareil et engrangeant des images des différents coins de Hollande que je trouvais vraiment passionnant.
Alors, cette fréquentation des classiques, on va en parler, Willy Ronis, elle a, vous le dites, aussi forgé votre regard, évidemment, et votre sens de la composition, du cadre. Alors, j'ai dit, vous auriez pu être musicien, vous auriez pu être peintre. Vous êtes photographe, bien sûr, Willy Ronis, et vous dites que c'est un accident de la vie, puisque en rentrant de votre service militaire, votre père, atteint d'un cancer, vous a demandé votre aide dans son travail de retoucheur, photo, ouvrier, photographe, dans son studio.
Et opérateur.
Et opérateur. Mais avant cela, on dit que c'est en 1900, alors les dates ne sont pas toujours justes, 1926 ou 1927, que vous avez pris votre première photo, Willy Ronis. Vous aviez donc 16 ou 17
ans. Même pas 16 ans, oui, puisque je suis du mois d'août. C'est au début de l'été 1926 que, muni de mon premier appareil que mon père m'avait offert, un Kodak Folding, format 6,5 11 cm. Et là, j'ai fait mon premier autoportrait.
Ah
oui, mon premier autoportrait, car il m'avait très gentiment offert aussi un petit instrument à déclenchement automatique par ressort. Et là où je me trouvais en vacances en Corrèze, pendant que ma mère et mon jeune frère étaient partis au marché, il y avait une petite cour jardin avec un transat. Et comme mon père m'avait offert aussi un trépied photographique, j'ai mis l'appareil sur le trépied, j'ai fixé le retardateur et j'ai fait mon premier autoportrait.
Et cette tour Eiffel, alors, c'était pas
alors
la première?
Alors la tour Eiffel, c'était un an après.
Ah.
Un an après. Et alors là, je me fais une réflexion, mais que je fais toujours avec précaution, parce qu'elle peut paraître prétentieuse. Mais le hasard veut que j'ai fait ma première photo de Paris l'année où Hadjet a fait ses dernières photos de Paris.
Le passage de témoin, alors?
Oh, on peut dire ça, mais c'est un hasard. Ce sont les hasards du calendrier. Mais ça m'avait frappé quand même.
Mais alors, donc, très jeune homme, 16 ans, 17 ans, déjà, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de votre parcours, Willy Ronis, le goût de travail sur les lumières pauvres. Est-ce que vous pouvez expliquer cela?
C'est vrai. Parce que j'avais vu des photographies qui m'avaient beaucoup impressionné. Tous les ans, il y avait à Paris, dans les locaux de la Société française de photographie, un hôtel particulier de la rue de Clichy, il y avait tous les ans une exposition internationale de photographie. Et ça, c'était fabuleux. Parce que, alors que je me morfondais très tristement dans l'atelier de portrait classique de mon père, je voyais là, une fois par an, une, 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 une photographie avec laquelle je me sentais en plein accord, que j'admirais profondément et que je me disais, ben voilà, si je deviens photographe en sortant de ce studio de portrait, eh bien, c'est dans cette voie-là que je veux me diriger.
Je parlais de lumière pauvre, alors lumière donc alors, presque lumière de pauvre. Nuit ou...
Parce que déjà, dans mes visites au Louvre et dans les peintures que je voyais du siècle d'or, j'avais été très impressionné par les peintures de Rembrandt. Et dans Rembrandt, il y a souvent des lumières pauvres. Il y a le philosophe en méditation, il y a même... La ronde de nuit, qui est une lumière très étrange, dont on ne sait pas très bien faire l'analyse. Ces lumières pauvres, je me dis, mais voilà, en photographie, il faut que je trouve ça. Et je me rappelle, en 1930, un ami de mon père, qui s'était acheté un Leica, ce qui était un appareil très cher, m'avait dit « Tu veux essayer ?» Alors j'ai dit « Oui, oui, je vais essayer. » Et comme il y avait un objectif extra-lumineux, j'ai été photographié en 1930 des chantiers de bâtiments de nuit avec des ouvriers au repos prenant un peu de chaleur autour d'un brasero. Alors le brasero, la lumière d'un brasero, c'est nul. Mais il y avait là des copeaux de bois, et j'ai jeté dans le brasero une grosse poignée de copeaux de bois. Ça m'a donné une flamme et j'ai pu faire mes photographies à la flamme des copeaux de bois de mes ouvriers au repos. Et c'était en 1930. Hein. Les films étaient très peu sensibles.
À propos de ce peu de sensibilité, on va en parler dans un instant de ce livre Paris couleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais restons juste un instant avant le véritable début de votre travail, Willy Ronis. Vous l'évoquiez, ce travail auprès de votre père. 4 années à faire un travail dans lequel vous étiez vraiment là, votre corps défendant. Vous avez parlé de 4 années de mensonges. Est-ce qu'il faut comprendre comme ça votre goût ensuite, le credo absolu de Willy Ronis, on le sait, c'est la vérité. C'est vraiment aussi par rapport à ce moment-là qui était difficile pour vous ?
Ah oui, ces 4 années ont été très difficiles, dominées d'une part par le chagrin que j'avais de voir mon père souffrir le martyr, car... dans les années 1930, il n'y avait pas les produits antidouleurs dont nous disposons par bonheur maintenant. Et j'ai vu l'agonie de mon père se poursuivre pendant des années. Et j'en ai énormément souffert parce que j'avais une adoration et un respect immense pour mon père. Et quand il est mort, en juin 1936, je savais que je ne resterais pas. J'ai abandonné le studio à ses créanciers, car nous étions dans les années 30 avec la crise économique et les affaires marchaient très mal. Nous sommes donc sortis ruinés de ce studio. Et avec l'appareil que j'ai pu sauver, je me suis dit, eh bien, tant pis, je me lance, je vais devenir photographe indépendant, faire du reportage, et puis tout ce qui se présente, parce qu'il faut vivre tous les jours. Mon père donc était mort. Ma mère n'avait pas de métier et j'avais un jeune frère de 8 ans plus jeune que moi. Donc ça m'obligeait à vraiment travailler très dur. Mon frère, d'ailleurs, au bout de 3 ans, a abandonné son souhait de devenir médecin et est entré comme petit fonctionnaire pour aider à la survie de notre petit groupe. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'avais par bonheur déjà constitué des petites archives. Parce qu'en tant que amateur, depuis 1926, j'avais accumulé des photographies de paysages français, de métiers français, d'artisanats ruraux et beaucoup de sports d'hiver. Parce que c'est l'hiver que je partais à la neige pour faire des photos. Et de camping, car 1936, à partir de 36 aussi, j'ai fait beaucoup de photographies de camping. Donc j'avais déjà un petit noyau de clients qui étaient d'une part le commissariat au tourisme, qui me prenait des photos de Paris et des photos du paysage français. Et alors, la SNCF, qui me prenait des photographies de neige des Vosges, puisque la gare de l'Est, avec qui je travaillais, menait aux Vosges, donc à la neige de l'Est. Et c'est ainsi qu'avec d'autres petits boulots, des portraits à domicile, des photographies pour des petits industriels parisiens, etc., des artisanats, etc., eh bien, j'ai survécu jusqu'à mon départ à la guerre. Et j'ai pu entretenir ma mère.
Mais ces photos qui restent de cette période-là, Willy Ronis, alors ce sont les photos du Front Populaire, le 14 juillet 1936, toutes ces photos, les grèves de 1938, ces photos-là, elles étaient publiées quelque part ou elles c'était un travail parallèle pour vous ?
Non, ça s'est passé la façon suivante. J'ai évoqué le mois de décès de mon père, c'était juin 1936. Et c'est en juillet 1936 que je suis descendu avec mon appareil pendant le fameux défilé du Front Populaire de la Bastille à la Nation, et avec d'ailleurs des colonnes immenses qui venaient de tous les coins de Paris et de banlieue. Et c'est là où j'ai fait des photographies qui ont été publiées par la suite et qui continuent à être publiées. Notamment la petite fille au poing levé sur les épaules de son papa.
Avec son bonnet phrygien.
Avec son bonnet phrygien. Et dont j'ai fait la connaissance très longtemps après, puisqu'il y a quelques années, j'ai fait sa connaissance. Et sur ces entrefaites, d'ailleurs, la chaîne Arte m'avait dit « Mais vous savez, Willy Ronis, que nous avons une série qui s'appelle « Les 100 photos du siècle ». Ben, nous voudrions y inclure votre photo du 14 juillet. Et voulez-vous que nous fassions ça un soir à votre convenance ?» Et j'ai dit « Oui, mais en plus de ça, sachez que je vais vous amener l'héroïne de l'histoire. » Et alors, j'aurais donné l'adresse. Et ils ont invité l'héroïne des histoires, donc le petit reportage dans les rues de Paris et ensuite avec elle dans un bistrot. Ça s'est fait à ce moment-là.
Natacha Wolanski.
Oui, ce qui est amusant avec ce livre où finalement vous partez d'images pour raconter un peu l'histoire des images, c'est qu'on s'aperçoit, et on s'en rend bien compte là à l'instant, que finalement une histoire d'une photo, ça se fait en deux ou trois temps. Ça se fait au moment de la prise de vue. Et puis ça se fait au moment du tirage, où on découvre des choses qu'on n'avait pas vues au moment de la prise de vue. Et puis ça peut se faire effectivement 20 ans, 30 ans après, quand les personnages de l'image reviennent vous voir et vous réapprennent encore des choses sur l'image. Et ça, c'est très amusant, ces strates d'histoire qui se greffent.
C'est exact. C'est exact parce que vous avez évoqué au début la surprise qu'on a au développement. Vous savez, à force de la pratique du métier, on a de moins en moins de surprises.
Oui, mais alors dans le livre, vous racontez très bien le danseur avec les
Ah oui, bien sûr.
Alors racontez-la vous, alors, parce que...
C'est dans ce jour-là, ce livre-là,
oui,
c'est
dans ce jour-là, très portraits. Ce jour-là, c'était en été 1947. J'avais eu la commande pour l'album du Figaro. Puisque le Figaro faisait, je crois, 3 ou 4 fois par an, un album sur papier couché, très beau, avec des sujets divers. Et il m'avait demandé, parce qu'il savait que je faisais beaucoup de photographies de gens dans les rues, de cafés, de dancing, etc., de faire une série sur les guinguettes des bords de Marne. Et j'étais donc allé sur les bords de Marne, à Joinville notamment, et à Joinville, j'étais entré dans un établissement où on dansait en plein air. C'était chez Max, c'était à côté de chez Gégène, qui était particulièrement réputé. Mais chez Max, on dansait aussi en plein air. Et là, je vois à un moment donné un groupe de danseurs, et notamment un garçon avec une belle chemise écossaise qui faisait danser deux filles. En même temps. Il avait une fille à chaque main et il la faisait danser. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et j'avais, là où je me trouvais, devant moi, un couple qui était assis sur chaise de jardin, qui regardait donc cette scène de danse, et était donc assis, ce couple était assis. Alors moi, j'ai traîné derrière eux une chaise pour avoir une vue un peu plongeante, et j'ai fait signe aux danseurs qui faisaient danser les deux filles, qui étaient assez éloignées. Je lui ai fait signe de venir plus près avec ces danseuses. Et quand il a été à une bonne distance, c'est-à-dire à 5 mètres à peu près, et qu'ils étaient de face tous les trois, à ce moment-là, j'ai fait ma photo, et on voyait de dos, en bas, le buste du couple qui regardait les danseurs et qui, en somme, se reposait.
Vous étiez debout sur une chaise derrière, hein ? Vous étiez debout.
Moi, j'étais debout sur une chaise derrière. Et j'avais donc une image en trois plans. J'avais ce premier plan avec le couple de dos, mes danseurs au milieu de l'image, et derrière eux, la petite foule du groupe de danseurs qui était plus ou moins agglutiné, mais qui était derrière. Et ça, ça m'a donné l'impression d'une fugue de Bach à trois voix. Puisque j'avais l'accompagnement qui était derrière, j'avais le thème principal qui était mon danseur avec les deux filles, et j'avais la basse continue avec mon couple de dos en bas.
Et il y a 3 ans, écrivez-vous, dans ce jour-là, Willy Ronis, ça c'est la première photo de cet ouvrage, il y a 3 ans, la danseuse qui est sur la droite vous a écrit une lettre.
Oui, il y a 3-4 ans, elle m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle connaissait cette photo depuis fort longtemps, mais c'est parce qu'elle l'avait trouvée dans un livre que je venais de faire.